Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Fernand, comment ça va?
Yes, je vais bien, et toi-même?
Bah ça va, en plus on a eu une véritable surprise parce que oui, toute la France était derrière BSD, mais les bookmakers et globalement les gens voyaient Ismaël Bonfim s'imposer, et finalement, par une agressivité, un game plan aux petits oignons, BSD vraiment a... Enfin moi je sais qu'il m'a impressionné.
Il m'a tellement impressionné. Franchement, non, mais ouais, il m'a bluffé. Il m'a scotché. Un game plan aux précisions. Le game plan était parfait. C'est vraiment le truc qu'il fallait faire. Agresser. C'était le truc de agresser, agresser, agresser. Sauf que il fallait savoir comment agresser. Si tu vas l'agresser en anglaise, un bon film, ça peut se compliquer. Si tu vas l'agresser en lutte tout de suite, ça peut se compliquer parce qu'il revient debout. Mais l'agresser en middle kick et continuer à taper là-dessus, c'est génial. C'était bien vu. C'est franchement, chapeau. Chapeau à lui et puis à toute sa team. À la team Ouvrarin, ils ont fait un taf de ouf. Et puis, non, c'est bien. L'OMMA français se porte bien.
Et pour lui, quel adversaire tu aimerais pour la suite? Déjà, selon toute vraisemblance, un UFC Paris, là, c'est logique. Après, c'est vrai que les gens, même en commentaire, les gens savent pas trop qui ils aimeraient avoir. Moi, j'ai dit Drew Dober, je trouve que c'est bien. Après, je sais pas si toi, t'avais un nom en tête.
C'est bien, c'est une bonne marche,
Ouais.
Drew Dober. Je pense que les noms qui... Ouais, Drew Dober, c'est bien, c'est une bonne marche.
Ouais, voilà, c'est un bon truc
Il
alternatif, ouais.
va... Comment dire? Les noms qu'il a demandé, il va les affronter. Mais pour le business, c'est bien de les avoir call out. Parce que qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas, peu importe, il les a call out, ça donne les intentions au matchmaking. Voilà le genre de gars qu'il veut. Voilà le niveau où il veut se positionner. Il veut se positionner dans le top 10. Il veut les top 10. Donc, il est là. Moi, j'adore. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est le call qu'il faut faire. Même si je souhaiterais qu'on lui donne un peu avant ça, pour qu'il verrouille complètement son assurance mentale et qu'ensuite, quand il va y arriver, qu'il leur fasse mal au top 10, tu vois.
Voilà, c'est parfait. Et Fernand, avant de venir au gros sujet de la semaine, dans les actualités, il y a le retour d'Alexander Volkanovski, une UFC International Fight Week, je trouve assez calme.
Ouais,
Enfin.
ça ne ressemble pas aux autres. En gros, l'UFC, pour ceux qui ne savent pas, l'UFC Fight Week, en juillet, c'est la fête de l'UFC. C'est là où, d'ailleurs, de manière traditionnelle, l'UFC invitait tout son roster. Tous les combattants, tous les 700 combattants de l'UFC sont appelés au Performance Institute pour une grande fête. Et sur la Fight Week, en général, il y avait le championnat du monde amateur des MMA. Il y avait deux ou trois événements qui se chevauchaient, donc ce qu'on appelle un fight weekend experience
Oui, il y avait
des
des finales
fois
du teuf et tout.
voilà finale de TUF, combat de fight night et puis éventuellement ou bien même combat numéroté fight night et puis championnat du monde amateur. Et là c'est un peu calme, c'est un peu calme, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, la carte telle qu'elle est proposée, en général, quand Volkanovski combat, c'est pas n'importe quoi, en général.
Tu penses qu'il va se passer quoi? Donc c'est Volkanovski, Yair Rodriguez. Yair Rodriguez qui est un espoir depuis des années de la catégorie. Là, il est champion intérimaire depuis sa victoire sur Josh Emmett. Plus gros test et de loin en carrière face à Volkanovski. J'ai du mal à croire à l'upset, moi.
Moi aussi. Alors, et pourtant c'est le champion et c'est même l'un des plus grands combattants sur la planète, Volkanovski. Mais j'ai un faible pour Yair Rodriguez. J'aime la personne, j'aime son style. On l'a reçu plusieurs fois sur Arès. Il est extrêmement cool comme mec. Et puis au-delà de ça, bah il apporte un air nouveau, tu vois, une manière de combattre qui est... mais ça va être difficile. Je ne sais pas comment il va faire pour passer. Ça va être difficile.
Mais voilà, je partage ton avis en co-main event. Ça, mais c'est peut-être pour ça, en fait, c'est ce que je me dis avec cette carte-là, qu'il n'y a pas vraiment de choc qui passionne les foules avec Pantoja contre Brandon Moreno, ton chouchou. Là aussi, j'ai l'impression que le champion va rester le champion, même si ils ont une vraie histoire, il y a une vraie rivalité entre les deux hommes.
Pantoja, déjà, ça se rapproche. Ouais. Déjà, ça se rapproche. C'est beaucoup plus proche que Volkanovski, Yael. Tu vois, Pantoja, il n'est pas simple. Et pour peu que, pour peu que Moreno arrive sur une forme moyenne, ça peut se compliquer. Ça peut se compliquer. On parlait de BSD. C'est un vrai upset, quoi. Quand tu pars de, quoi, 90e place à un top 50 et que c'est un vrai upset, c'est un vrai coup de, c'est génial, tu vois. Et donc, c'est possible. Tout est possible. Tu sais jamais ce qui va se passer sur un combat en vrai. Je trouve que ce match-là se rapproche déjà, mais si on me demande d'être rationnel et de voter afin de décider au peu de connaissances que j'ai aujourd'hui des deux et à l'état auquel on les a laissés, parce que l'état récent de Moreno, je ne sais pas. Je n'ai pas eu beaucoup de news dessus, ses entraînements, son camp d'entraînement, tout ça. Je ne sais pas grand-chose. Mais si on se réfère à ce qu'on a laissé il y a quelques mois en arrière, je mettrai ma pièce sur Moreno.
Okay, oui, moi aussi. Sur cette carte-là, le dernier combat qui est le plus en vue, c'est Dricus du Plessis contre Robert Whittaker. Robert Whittaker, stat assez folle. Qui n'a pas perdu contre quelqu'un qui ne s'appelle pas Adesanya depuis 2014, qu'il a affronté du Plessis parce que du Plessis, évidemment, il y a une petite rivalité à distance avec Adesanya. L'UFC a envie de le pousser. Là aussi, tu vois, je...
Ouais, trop short. Il n'y aura pas la magie.
Ouais.
Parce que, comment dire, Whittaker sait gagner. Il ne sait pas tout le reste, il sait gagner, il sait se débrouiller pour arriver à la victoire. Duplessis a beaucoup de tout encore dans sa manière de boxer. Son abordage, la manière dont il rentre dans le combat, il fait beaucoup d'erreurs. Whittaker fait très peu d'erreurs. On va toujours dire la même phrase, le MMA reste le MMA, tout est possible. Et c'est le rêve, en fait, c'est ça, le rêve, parce que s'il bat Whittaker, c'est une dinguerie. C'est un tel upset que du coup le combat entre Adesanya lui prend une valeur qui n'a pas en termes de stock option, ça fait ça. C'est voilà quoi, ça monte très très haut. D'autant plus qu'il y a Adesanya qui promet de traîner le corps de Duplessis dans Pretoria en Afrique du Sud. Il a promis de le traîner par terre, de l'enchaîner sur une voiture, de traîner son corps dans tout Pretoria ou Johannesburg. Je ne sais pas dans quelle ville ils vont le faire. Mais en tout cas, difficilement, ça va passer. Whittaker est scientifique. Le Whittaker qu'on a vu à Paris était trop scientifique, trop carré, trop... Il ne laisse pas de faille, il domine, il gagne. Il sait gagner, il sait comment faire pour gagner.
Et là, voilà, UFC, comme ça, pour les 30 ans de l'organisation, puisqu'elle existe depuis 1993, pourquoi, alors que c'est censé être la célébration pour les fans, t'as une petite International Fight Week, toi en tant que promoteur?
Je pense que l'événementiel est un métier où tout est à l'impro souvent parce qu'il y a beaucoup, il y a des surprises. Il y a souvent des choses qui viennent là, vous gênez la fête, vous gâchez la fête parce que il y a tel qui n'est pas disponible, parce qu'il y a tel combattant qui est blessé, parce qu'il y a tel partenaire qui devait jouer le jeu et organiser telle chose qui peut pas être là, parce qu'il y a les championnats du monde amateur qui ne sont pas calés au même moment, parce qu'il y a le TEF, la finale qui n'est pas calée au même moment. Enfin, en termes de temporalité, l'événementiel, c'est beaucoup de surprises et il faut s'adapter. Le maître mot de l'événementiel, c'est s'adapter. Je ne peux pas t'expliquer. Je déteste vouloir faire les spéculations sur... Je ne veux pas spéculer sur ce que je ne sais pas. Je ne sais complètement pas ce qui fait que cette fin de nuit, cet été, n'est pas terrible. Je ne sais pas.
Et dernière chose, Fernand, par rapport à tout ça. Je ne sais pas si tu as la réponse. J'étais très surpris aussi par les résultats d'annonce des audiences du TUF Conor McGregor contre Michael Chandler. En gros, tout était mis en place, et même moi le premier, je m'attendais à ce que ce soit la folie, parce que le trailer était chaud, le retour de McGregor contre Chandler, ça allait être électrique, les audiences sont tombées, c'est... Je vais pas dire catastrophique, mais c'est très...
Oui, un peu.
Ouais, voilà. Si. Bon, voilà. Si.
En réalité, le teuf, là, c'est catastrophique. Ouais. Après, c'est, je pense que c'est les...
Parce qu'on se dit, si Connor n'arrive pas à le faire, personne ne va réussir.
C'est ça, ce sont les médias. Quoique, Connor peut ne pas le faire. Par exemple, le teuf où il y avait Chael Sonnen contre Vanderlei. C'était pas tant Chael Sonnen et Vanderlei qui avaient vendu. C'était aussi qu'ils avaient des équipes légendaire. Dans l'équipe de chacun, il y avait des guerriers qui... Tu te rappelles quand il y a eu l'espèce de bagarre, il y a eu une mêlée carrément où les gars avaient des bouts de t-shirt de Vanderlei, des bouts de t-shirt de Chael Sonnen. C'était des personnalités chacun des combattants. Là, ils ont réchauffé quelques anciens mecs qu'ils ont virés déjà de l'UFC. Ils ont remis les mêmes mecs. Il y a... comment il s'appelle le Dagestanais là, Timuzo, qui sort de, qui raconte un peu comment il a raconté sa femme, comment, c'est pas terrible, en fait, tu vois, les histoires. Je pense que, et puis ce qui fait marcher le teuf souvent, c'est ce que disent les médias. Les médias ont très mal accueilli le teuf. Malgré qu'il y ait Connor qui revenait, il n'y a pas eu de hype dessus. Il n'y a pas eu un média qui a dit, épisode de malade, ça a été ceci, ça a été cela. Déjà, ça a été relou parce que l'épisode, les deux premiers épisodes, il n'y a pas eu de combat. C'était de la présentation, ça parlait beaucoup. Sauf que les présentations deviennent un peu gnangnang parce qu'en gros, on sait c'est quoi une présentation. Bonjour, je m'appelle un tel, J'ai trois enfants, mes enfants me manquent, je suis mal, j'ai envie de retrouver ma femme, je pleure. Oh, ça commence à gaver. Donc, les gens veulent maintenant que, si tu travailles sur un programme de télé-réalité, on veut que ça démarre tout de suite. Dès l'épisode 1, on veut qu'il y ait un gros truc, tu vois, un peu. T'as vu le 100% physique sur Netflix? Ça démarre, alors c'est lent sur les épisodes parce qu'ils répètent souvent les mêmes scènes, mais au démarrage, les mecs arrivent, ils sont 100, on élimine déjà 30 d'entrée de jeu. Il y a une espèce d'échafaudage qui monte et tout, et tu dois t'accrocher, et ça tombe. Donc déjà, il y a déjà dans la notion du téléspectateur, c'est abusé. Je me suis inscrit pour gagner le truc, et on dégage 30 personnes sans pitié. Le teuf, c'est lent à démarrer. C'est relou. Ça présente le chien. Et donc, on montre le chien d'un mec. Et on montre comment le chien, il a trois pattes. Et donc, c'est une histoire. On est censé toucher les gens.
Tu penses que le teuf a aussi un peu perdu parce qu'il y a le Dana White Contender Series et que donc, du coup, qui se dit, les prospects, on se les garde pour le Contender?
Ils sont partagés parce qu'ils doivent avoir les prospects partout. Moi, j'avais jamais vu autant de recherches. Je reçois par semaine une ou deux demandes de l'UFC qui disent l'UFC ne faisait pas ça. Nous, on courait derrière l'UFC pour leur donner des athlètes. Et on disait, oui, voilà ma liste pour le Contender Series. Maintenant, je suis débordé. C'est que je suis contacté par l'UFC. On a besoin d'un 93. Est-ce qu'il n'y a pas un poids lourd? Est-ce que tu n'as pas une fille? Ils ont besoin de monde. Et donc, du coup, tu sens qu'ils galèrent un peu parce qu'ils ont pris un peu, qu'ils ont mis sur le teuf. Et puis, il y a ceux qui nourrissent tout de suite pour qu'ils soient vendeurs tout de suite, qui sont sur le Contender Series. Ça, du coup, c'est léger. C'est léger en termes de... Il n'y a pas une grosse puissance. Et puis, bon, Chandler, c'est bien. C'est bien qu'il gagne. Mais malheureusement, le sort est contre l'UFC. Parce que le gars qui a une grande bouche et qui peut beaucoup parler si jamais et qui peut mettre le feu s'il est bien, il ne peut pas trop parler là. Parce qu'il a 5-0, il s'est fait dérouiller, sa team perd tous les combats. Bon, c'est dur, tu vois. Les gens n'adhèrent pas beaucoup, tu vois. C'est que. Parce que, tu sais, quand tu es en costard, tu arrives en costard et que tu gagnes les combats, ça marche bien. Moi, quand j'arrive souvent en costard, je gagne les combats, ça marche bien. Là, je suis arrivé en costard. John Jones a dit, tu vois, le coach, il est arrivé, il avait le costard pour faire l'interview. bah ça te casse, tu vois. C'est toujours le principe de la, comment dire, la performance valide la méthode. Si Connor arrive 5 combats, il est en coaching en mode. Et pourtant, c'est stylé ce qu'il fait. Parce que il y a qu'au basket qu'on voyait ça, les coachs qui arrivent coacher, qui sont en costard. Hein, tu vois. Et lui, il arrive comme un coach de basket, il est en costard, c'est stylé. Malheureusement, la performance ne vient pas valider sa méthode. Parce que du coup, on se dit, on fait des anneaux, des liens de. Comment on appelle ça?
Cause à effet.
Non,
Non.
des liens d'idées, en fait. Enfin, on s'est dit, bon, le gars, probablement, il perd parce qu'il a un costard. Ce qui est très stupide. On est d'accord que c'est très stupide. On s'en fout de la tenue que tu as. Si tu es coach, tu coaches, tu vois. Mais c'est que comme tu as perdu, bon, on s'est dit, dès qu'il avait un short, son gars aurait gagné, tu vois. Peut-être avec le short, il aurait mieux coaché, un truc comme ça. Bah, du coup, il y a tout qui tombe. Et c'est l'UFC n'a vraiment pas de chance avec cette offre. Parce que, bah, s'il avait au moins 2 victoires, le mec, il a 5 combats, 5 défaites. Et il est censé être le plus fort, le beau gosse, le leader, qui a ramené des bons coachs, mais ça ne marche pas. Et il est allé prendre Thompson, Thompson arrive, vous l'avez dit, mais ça ne marche pas. Ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. C'est ça l'événementiel. L'événementiel, c'est tu découvres ta soirée, si elle est bonne, dans la soirée. Ça veut dire que sur Arès 16, tu arrives, tu as fait toute la fight card, tu as tout mis en place, ta PA, Kaina, elle a assuré, elle a fait du bon boulot, Julie, qui s'occupe de Nevib, a fait du bon boulot, les chefs opération, Camille a fait un boulot de malade, Guillaume, la télé, tout est organisé. Mais jusqu'à la dernière, jusqu'au, ok, on va dire jusqu'au 4e combat, 5e combat, tu ne sais pas si ton événement a réussi. Il y a une magie, ça prend ou ça ne prend pas. Bah, c'est ce qu'ils vivent en fait. Le teuf, tu comprends pas pourquoi ça ne prend pas. Et pourtant, c'est le truc qui a toujours pris, c'est le truc qui a fait que ces mecs puissent signer le plus gros contrat de leur vie avec Spike TV, qui les a amenés à remonter la pente quand ils étaient sur un déficit de 41 millions. Va savoir.
Aïe, 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 aïe. Bien, sans transition. Enfin, peut-être quoi que, non. Petit point, quand même, qui m'intéressait ce week-end. On a beaucoup moins parlé parce que forcément, BSD a tout écrasé. C'est vrai que Strickland a assumé son statut face à Magomedov. Et là, il y a plusieurs combats de ce type. Il y a aussi Costa qui doit affronter un jeune là dans pas longtemps. Tu penses quoi, toi, de ces oppositions? Parce que c'est vrai que c'est tellement brutal. Parce que soit le gars arrive à passer l'étape et on dit « Waouh, c'est le futur !» Ou soit t'es quand même brutalement remis sur terre comme Magomedov ce week-end.
Le problème, c'est qu'il faut avoir deux lectures de jeu. Il y a la lecture du tweetos, du fan classique qui, quand il voit Magomedov faire des City, c'est fini, sa carrière est foutue, il est mort, il n'existe plus. Et puis, il y a des experts comme toi, des experts de la communication, ou même des coachs, des experts, des préparateurs physiques, des gars qui ont des teams, des combattants, qui voient ça différemment. Un mec comme, prenons un gars dans la catégorie comme Nassourdine Imavov qui voit Magomedov perdre, bah, il va pas se dire, Abou, il est mort. Parce qu'il sait c'est quoi une défaite, il sait que c'est comme j'aime dire, c'est un dodan sur le chemin d'un combattant. C'est un apprentissage, tu n'as pas l'idée. Le mec était invaincu, il déroulait son chemin, ta, 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 ta. Bon, voilà, il est tombé sur un os qui lui apprend c'est quoi la vie, qui lui remet un peu les certitudes en place. Bon, tu rentres chez toi, tu as moins de certitudes, tu as plus envie d'apprendre, tu as plus envie de découvrir ce qui s'est passé. Non, je pense pas que c'est mauvais. Je pense juste qu'il faut que les êtres humains comprennent, que nous comprenions qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture de ceux qui sont dans la culture de l'instant et qui te disent, oh, t'as perdu, t'es mort, t'es rien, t'es fini, et toi, t'as gagné, t'es tout. C'est que nous, on est passé par là. On est arrivé à un moment de nous où quand on est arrivé sur, on a quand même fait avec certains gars un parcours incroyable. C'est que si on prend que Cyril, on part de 0 à 100 sans transition et on brûle toutes les étapes, ça tape tout le monde, ça avance. Et puis de manière très brillante et tout, on arrive à Houston où on prend la ceinture intérimaire. On a beau dire ce qu'on veut, c'est la ceinture intérimaire, frérot. Il y a des pays, ici en France, on s'en fout de la ceinture intérimaire parce qu'on a cette culture-là où on ne respecte pas les bails, mais ceinture intérimaire, tu as vu Covington et tout, ceinture intérimaire, il est devenu une personnalité publique, il parle avec le président de la République aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ceinture intérimaire au Cameroun, je pense qu'on fait jour férié 7 jours, tu vois, on se calme et puis on est archi-patriote, quoi. On sort les drapeaux verts ou jaunes et puis on est content de la ceinture. Donc, ce que je veux dire, c'est que malgré ça, tu te dis tout est là. Et puis, bim, il y a une défaite. Et puis, les gens disent, oh, mais non, mais vous étiez fou. Comment vous avez pu rêver de ça? Donc c'est ça, c'est tout le meilleur que tout ce que je souhaite à BSD, c'est qu'il n'ait pas de soucis sur ton parcours et qu'il aille tout droit et qu'il aille prendre cette ceinture. Ça fera du bien d'avoir plusieurs ceintures. Peut-être Manon qui prend une ceinture chez les filles, c'est une bonne chose. BSD, s'il la prend à 70 kilos, c'est une bonne chose. Bah voilà, c'est la France qui gagne, c'est bien. Maintenant, c'est juste un truc de culture. Les gens sont là sur la culture du moment et qui disent, Abou, il a perdu. On l'enterre. Comme Charles Oliveira, on l'a enterré il y a quelques années. Comme Moreno, mais René, on l'a enterré, il est sorti de l'UFC. Ensuite, il est revenu, il a tout gagné, il a tout déchiré. Bah, Charles Oliveira, il a été enterré, mort, et il est revenu, il est ressuscité des morts et il est devenu champion. Non, Abou, je n'ai pas d'inquiétude pour lui. Je n'ai pas en termes de matchmaking, je n'ai pas de regret qu'on ait mis Abou contre le numéro 7 mondial. Je suis vraiment à ce qu'on teste les mecs et qu'on aille donner la chance aux gens. Parce que la performance sportive ne s'arrête pas juste aux compétences physiques, aux compétences mentales, aux compétences. Il y a ce qu'on appelle la casualité, la chance, la fortune, le moment donné où tu es bien et où tout s'aligne et le moment donné où l'autre est mal et ça ne s'aligne pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne s'aligne pas ce jour-là. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne s'aligne pas. Tu prends le même combat, tu le fais 10 fois, ça ne s'aligne pas. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, oui, je suis bon, oui, je me suis entraîné, mais Belek, c'est pas que... Attention, il faut rester très prudent, il faut regarder, faut ménager les choses, il faut faire attention. Et Abou, aujourd'hui, il a pris une belle sauce, une belle leçon, ça va lui faire du bien. Il va revenir, il va réétudier le jeu, il va se rendre compte de ses points faibles, il va devenir meilleur. Je suis vraiment persuadé que ces jeunes-là, c'est comme ça qu'on les forme. Je pense que, pour revenir sur Arès, par exemple, parce que certains se disent, mais pourquoi on prend un jeune comme Kenzo et puis on va lui donner comme à manger à un ancien expérimenté? Non, ça se joue des deux côtés. L'expérimenté, il va venir avec son expérience pour marquer le territoire. Le nouveau qu'on voit tourner pour le coup et avec qui on voit tourner, qui est souvent très bien, on l'amène. Et puis, il y a les jours où tu n'es pas là. Juste, tu n'es pas là. Enfin, ça c'est quelque chose qui me turlupine en fait. Comment on fait pour que on vulgarise la lecture de jeu de la compétition? Parce que quand tu fais de l'athlétisme et que tu t'alignes sur un couloir 6, 100 mètres, à côté de toi, couloir 5, il y a Usain Bolt, tu perds, il te déchire et on dit bravo, tu as perdu. On ne te demande pas qu'est-ce qui s'est mal passé. Tu as perdu, le mec, enfin, il a fait 9 secondes, tu en as fait 10. Tu as perdu. Et on te pose la question différemment. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour battre Usain Bolt? Qu'est-ce que tu penses qu'il manque à ton camp d'entraînement pour améliorer ta performance et aller chercher les millièmes de secondes qui vont faire que tu battes Usain Bolt? Cette formule-là, cette manière de poser la question, j'aimerais que les médias captent un peu ça et aide le public à comprendre que certes c'est du combat, mais ça reste aussi un sport. Et dans le sport, on est censé avoir plus fort et moins fort, quelles que soient les disciplines. Boxe, pied-poing, lutte. Tu arrives aux Jeux Olympiques en lutte. Bah, il y a un moment donné, il y a eu médaille d'argent, médaille d'or, médaille de bronze. Bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur des autres, qui prenne l'or. Il faut qu'il y ait un deuxième qui prenne l'argent. Le gars qui a l'argent, on ne peut pas systématiquement lui dire qu'est-ce qui a foiré. Tu aurais pu, machin, tu vois. Je ne pense pas qu'un gars comme Abou, quelque chose a forcément foiré. Je pense qu'il y avait une marche qui était un peu au-dessus de lui. Et cette marche-là, elle a échoué. Je pense qu'un gars, un jeune comme Kenzo, il y a eu quelque chose, une marche peut-être au-dessus, qui n'est pas au-dessus parce que techniquement il était mauvais, qui est au-dessus parce que stratégiquement dans la concentration, l'ancien s'est dit, je vais lui rentrer dedans quand il a encore froid, je vais le cueillir. C'est ça le métier aussi. Et tous ces éléments-là viennent compter. Donc moi, je ne m'inquiète pas en tout cas pour ces jeunes-là qui arrivent et se brûlent les ailes rapidement et doivent reconstruire leur carrière.
Ok. Place maintenant au gros sujet, Fernand. D'habitude, on parle de tes superstars, en tout cas de tes top, top, top athlètes. Là, on va aller de l'autre côté. Comment tu fais à la base pour faire le tri? Comment, et même au-delà de faire le tri, comment tu fais pour orienter tes gars, pour leur dire, bah, peut-être que toi, je te vois forcément futur champion, peut-être que toi, tu serais bien dans telle ou telle, on va dire, branche, organisation, ou même tout simplement tempérer des ambitions qui seraient pas en adéquation avec ce que toi, tu vois sur le terrain. Et comment tu fais pour gérer ça, alors que, je tiens à le rappeler, t'es quelqu'un de très pris, pour te dire, bon, faut pas non plus que je vexe le gars et que, bah, tu vois, prendre des pincettes pour parfois dire des choses qui peuvent être assez brutales.
Il faut le voir comme un métier sensible, comme un médecin qui doit apporter des mauvaises nouvelles. Quand je suis un sportif à l'époque, quand je joue au rugby et que je me fais mal au cervical et que j'ai une hernie, la rhumatologue qui me l'annonce ne... Merci, Madame Antissé, c'était la docteur Antissé à l'INSEP, elle me dit, assieds-toi. Et puis elle me dit, je ne vais pas passer par quatre chemins, les nouvelles sont mauvaises. Je viens de checker tes IRM, tu as un disque qui est en train de sectionner ta moelle épinière. C'est pour ça que tu as une déficience de force sur le bras gauche et ensuite qui a bascule sur le bras droit aussi. Et donc, je t'annonce une mauvaise nouvelle, tu ne pourras plus lutter, tu ne pourras plus faire du rugby, il va falloir que tu arrêtes tout. Bon. Si. Tu peux la juger en disant, bon, c'est froid, c'est rapide, c'est brutal, mais c'est son métier. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses quand tu as des gens qui viennent vers toi, qui viennent à ta salle de sport et tu es un coach de MMA. Et tu as ces jeunes personnes, ou même des fois des parents qui accompagnent, parce qu'aujourd'hui, les parents n'accompagnent pas que les gosses. La famille entière accompagne l'adulte. La famille entière à Baïsanko, Baki, c'est une colonie. C'est que tu as toute la famille Shamsoudinov. Ça n'est rigolo. C'est que le père de Baki, je pense que le père de Baki a manqué 2 séances d'entraînement de toute l'histoire de Baki au MMA Factory. Et c'est des séances d'entraînement qu'il a manqué parce que je lui ai demandé de ne pas venir parce que je voulais tester quelque chose. Je voulais tester le comportement de Baki quand son daron n'est pas là. Et je voulais aussi désinhiber son partenaire qui, culturellement, ne se voit pas aller fort sur Baki quand il y a le daron. Donc, du coup, si tu veux, il y a des personnes comme ça très investies. Alors, c'est Ruslan, tous ses frères sont là, constants, au taquet. Je suis tous les jours avec eux au téléphone, c'est la famille entière qui est là. Et donc, si Baki avait été un athlète qui n'est pas bon et qui n'a aucune chance de pouvoir aller au haut niveau en MMA, j'aurais le devoir de dire de manière très froide à Monsieur Shamsoudinov, je suis désolé, trouvez un plan B. Faites-lui ce qu'on appelle un double projet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Même quand on a des certitudes, le mot double projet, je le prends de l'INSEP. Même quand on a des certitudes, comme à l'INSEP où il y a des regroupements de sportifs de haut niveau, il y a ce qu'on appelle un double projet. On forme des jeunes, on leur apprend des métiers. Ils ont à côté l'école et les études. Au cas où ça échoue, ils ont un autre projet. Dans le cadre du MMA Factory, on fait la même chose. On propose aux jeunes un double projet. On leur propose des choses en fonction de leur chance de devenir un champion. Et quand ils sont du cycle de Baki, pour revenir sur son exemple, on les laisse plein pot sur le MMA, 100% sur le MMA, parce qu'il y a de fortes possibilités qu'ils réussissent. Et puis, il y a d'autres familles que je reçois où je fonds en larmes. Il m'est arrivé de fondre en larmes en annonçant une nouvelle à quelqu'un. De lui dire, je ne peux pas te laisser continuer à venir. Parce que la personne, elle remarque que je ne convoque pas son enfant sur certains regroupements, que j'évite de lui prendre du temps, que j'évite de trop l'engager. Et donc, à la fin du coup, il me chope, il est avec son enfant. Je vais même être prudent pour ne même pas dire le sexe de la personne parce que ça peut être gênant. Et puis, je dis simplement, je ne suis pas convaincu que l'énergie que vous mettez, le temps, l'argent, le déplacement, puisque vous n'êtes pas d'ici, plus matché avec les résultats qu'il y aura. C'est très dur pour moi ce que je vais vous raconter, mais je vous en prie, il est important que vous compreniez. Mon rôle, c'est un orientateur. Je fais de l'orientation scolaire. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai tout le temps. Je peux me tromper. Mais je préfère me tromper que de vous tromper. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre enfant est dans une catégorie déjà traître, où c'est très compliqué. Dans cette catégorie-là, j'ai déjà eu des pleurs, de la douleur, de la vraie douleur. J'ai été raconter une histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà racontée. Quand Taylor l'a publié, signe à l'UFC en 2015, quand je le signe à l'UFC, je le mets à l'UFC en 2015, Taylor l'a publié, travaille. Il est dans la boîte familiale avec son père et son frère. Ils s'en sortent très bien. Ils ont un bon salaire, il se débrouille bien. Il a un corps de métier, une boîte qui tourne bien. On fait le premier combat, et ensuite, quand on revient, le travail qu'il fait est quand même laborieux. C'est que il y a une certaine pénibilité. Je vais demander à Taylor de suspendre son boulot et de se mettre au chômage et de s'entraîner 100% MMA. J'ai cette discussion avec lui. Lui, il a la discussion avec les parents, avec la copine. On discute un peu de tout. Du coup, c'est dans la difficulté, mais il va convaincre la famille il va se mettre au chômage. Il va faire que ça, s'entraîner. Il va se donner à mort. Il est 61 kilos bantamweight. Il va gagner beaucoup de combats. Sur les 4 combats de son contrat, il va gagner 3 combats et il perd un combat, mais tellement serré. C'est que, en France, il gagne au calme. Il perd à Monterrey au Mexique contre un Mexicain chez lui dans sa cour. Impossible de faire mieux. Et quand on revient, il est coupé de l'UFC. Ce qui se passe, c'est que dans les revenus que j'avais fait comme calcul quand je lui avais garanti que ce serait gagnant pour lui de se mettre au chômage et de laisser tomber son taf, il y avait sponsor Reebok. J'ai un coup de fil de Marion, la boss de Reebok à l'époque. Elle me dit, elle veut me voir au bureau, est-ce que je peux, machin, j'y vais. Et on s'assoit autour de la table. Et elle me regarde. Elle dit, bon, Fernand, je voulais te... Et elle sent que c'est chaud. Elle sent que mes yeux sont pleins. Que ça commence à perler tout seul. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est ridicule ce que j'ai. Je n'arrive pas à me retenir, tu vois. J'ai des larmes qui coulent. Et Marion s'élève et dit, bon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle appelle son collègue. J'oublie le blase de son collègue. Elle dit, vas-y, parle-leur. Explique-lui, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Elle s'élève et s'en va. Et son collègue me dit, on va arrêter le sponsoring. On ne peut pas suivre Taylor. Il est coupé de l'UFC. Nous aussi, on coupe son truc. Et donc, ça s'arrête. Et en gros, j'ai été inconsolable, pas parce qu'il nous coupait en fait le salaire, mais parce que le principe en fait du sponsoring, il joue à deux faces. C'est que tu es censé avoir un sponsor parce qu'il te soutient quand tu es dans la difficulté pour te ramener vers le haut. Mais là, quand on est au plus bas, qu'on a la mauvaise nouvelle de l'UFC qui tombe, qu'on a la mauvaise nouvelle que bah, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de revenus, on a encore la mauvaise nouvelle que les sponsors qu'on a qui pourraient nous aider à aller recombattre à l'extérieur pour remonter la pente nous lâchent. Et c'était pénible parce qu'on avait une très bonne relation avec Reebok. Et même la directrice de Reebok se sentait peinée d'annoncer ça. Et puis finalement, c'est comme ça, c'est irrévocable. Et ce truc-là te donne la responsabilité en tant que coach et manager d'annoncer que ce qui est possible, ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui est garanti. Ça veut dire que la culpabilité que j'ai eue de ce problème-là était telle que, est telle qu'aujourd'hui, je n'hésite pas une seconde à mettre un stop quand je sens qu'il y a un athlète ou une famille d'athlètes qui surcote leur athlète. Un athlète qui se surcote et qui dit qu'il veut faire de ça son métier. Dès qu'il me donne l'occasion de lui parler, je lui parle, bien entendu, avec une manière où je prends vraiment des précautions oratoires pour ne pas le blesser. Mais j'arrive à lui dire ce que je pense être vrai pour lui de façon à ce qu'il rectifie le tir. On ne peut pas tous être champions. Mais à côté d'être champion, il y a plein de métiers. Il y a des métiers d'entraîneur, il y a des métiers de préparateur physique, préparateur mental, il y a les métiers d'agent, manager, ce que tu veux, promoteur sportif. Et aujourd'hui, il y a même un nouveau métier que j'ai inventé, qu'on met dans les formations FMC, Fight Management College. On met un nouveau métier qui est le nouveau métier de sparring. On apprend aux gens à être des sparring. Les sparring commencent à gagner vraiment leur vie. En tout cas, les gens que moi, je prends en sparring pour les athlètes qu'on a, sont payés. Bien, correctement. Et du coup, quand je trouve des athlètes qui sont bons à l'entraînement, vraiment bons à l'entraînement, et qui n'arrivent pas à retranscrire ce qu'ils font et qui perdent leurs moyens le jour du combat, je leur propose de devenir des sparrings. Ça fait réducteur, mais ça donne une autre carrière. Ça donne la carrière où tu es capable de te, parce que c'est des mecs, ce sont des mecs qui sont très forts en général. et qui en salle surclassent tout le monde parce qu'ils n'ont pas ce facteur de performance qu'on appelle les facteurs exogènes, les facteurs qui sont en dehors de la performance et qui peuvent réduire la performance. Le public hostile, les lumières, le son, bref, le système nerveux neurovégétatif qui se met en route pour te protéger parce que tu as peur d'une situation qui n'est pas encore arrivée et qui est très conflictuelle, où il y a quelqu'un qui s'est entraîné pendant 3 mois pour te dégommer et toi aussi tu t'es entraîné pour le dégommer, forcément ça amène une tension. Il y a des gens qui ne supportent pas ça du tout et je leur recommande de voir s'ils ne pourraient pas devenir des sparring. Au bout d'un moment, tu ne peux pas aller dans la mine, aller prendre l'or. Tu peux peut-être entraîner celui qui est capable d'entrer dans la mine et prendre l'or et il va te la ramener et vous allez partager avec ton petit pourcentage. Tu auras peut-être, voilà, comme moi, dans mon niveau, j'étais incapable d'aller chercher l'or. Bah, je me suis débrouillé pour fabriquer des outils, des pelles et tout pour aider à aller creuser l'or. C'est une manière de modifier les choses et de toutes les façons, comme je vous le dis encore, ceux qui veulent en savoir plus sur cette formation, vous allez juste à vous rendre sur le lien sur ma bio qui est à aller plus haut, en tout cas en savoir plus, et puis vous allez cliquer sur ce lien-là qui va vous permettre de comprendre mieux le système qu'on a mis en place dessus. Mais voilà, pour aller donner cette réponse-là et donner les conseils à ces jeunes, on passe par ces méthodes-là qui sont un peu dures d'avoir un franc-parler, mais avec des habillages pour que la personne ne se sente pas mal. Donc, je vous parlais de ce lien-là, je vais atteindre le haut niveau. Si vous voulez atteindre le haut niveau, si vous voulez comprendre le haut niveau de tout, hein, le haut niveau sur le management, sur l'entraînement, sur le coaching, sur ce que vous voulez, cliquez sur ce lien-là, inscrivez-vous pour les formations qui arrivent et tout, et vous aurez des renseignements dessus.
Et ça t'est déjà arrivé à contrario de soit, je sais pas, de refuser quelqu'un ou justement de mettre un peu les freins et de dire bon bah là, va se calmer et que tu te trompes complètement.
Ah, toi t'es un malin toi. T'es un futé. Oui. Je pense que le cas de Benoît Saint-Denis, c'est un cas où moi je l'ai eu au MMA Factory. Jean, tu savais pas. Ok, bah moi j'ai eu Benoît Saint-Denis au MMA Factory et puis comme certaines personnes que je ne voyais pas pouvoir aller loin ou certaines que je voyais aller très loin et qui ne sont pas allées loin, bah Benoît Saint-Denis fait partie des personnes que je ne voyais pas aller loin et je n'ai pas de gêne ou de honte à le dire. C'est une affaire de, je suis pas un robot, je suis pas un magicien, je suis pas un visionnaire, je suis pas un magicien sur je vois pas mal de choses et il y a des choses que je ne vois pas parce qu'il est laborieux, parce qu'il n'est pas sophistiqué dans sa manière de boxer, parce qu'il n'est pas, et puis il y avait pas d'expression, il y avait pas de c'est une belle surprise, c'est quelque chose de bien d'avoir persisté, d'avoir fait son chemin. Je suis vraiment impressionné par lui. Je suis choqué. Je suis impressionné par ce qu'il est capable de rendre. Et je te dis encore, il y a beaucoup d'histoires comme ça, des gens qui avaient été recalés à des trucs de musique et qui sont devenus des rois de la pop star et tout. Il y a des histoires comme ça. Dans le cas de Benoît, je ne voyais pas.
À quel moment tu te dis, et à quel moment, par exemple, pour Benoît ou pour un autre athlète, tu fais « Oh, ça, je ne l'avais pas vu ». Est-ce que c'est une performance en particulier ? Quels sont, tu vois, les éléments où tu vas te dire, parce que quand on regarde aujourd'hui les athlètes que tu as qui sont considérés comme top athlètes, on va avoir Cyril, on va avoir Nassourdine, on va avoir Abdul Abdouraguimov, il y a Baki qui commence à pointer le bout de son nez. Donc c'est des gars qui ont des spécificités différentes, des spécialités différentes, des tempéraments différents, et aussi des parcours, à part Cyril, où lui, enfin, je veux dire, il a roulé sur tout le monde jusqu'à ce qu'il ait les plus hautes échéances, où tu les as connus aussi dans des périodes un petit peu de doute, où par exemple Abdoul, t'as vraiment été un vrai accélérateur pour lui avec Ares. À quel moment est-ce que tu décèles le, tu vois, la petite étincelle, ou en tout cas le truc où tu dis, là, je vais mettre du temps?
C'est chacun son truc. C'est vraiment chacun. Moi le fait que je n'ai pas besoin de regarder à Abdoul. Ok, dans le cas d'Abdoul, le moment où il m'a bluffé, c'était contre Kalamousso. C'est vraiment le moment où c'est fou, hein. Alors que je suis dans le train d'Abdoul, mais je suis genre en troisième classe. Et le moment où il m'a bluffé, c'est sur le combat de Karl. Vraiment, 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 je pensais qu'il y aurait eu un gros match. Vraiment. Peut-être que je suis resté un grand fan de Karl. Karl, c'est un grand combattant. C'est vraiment un grand combattant. Peut-être qu'il m'a marqué dans mon cerveau, il est resté trop longtemps un grand combattant au point où je ne visualisais pas. Mais la manière dont Abdoul l'a traité, là, je me suis dit, c'est next level. C'est next level. Tu vois, Michael Lebeau a battu Karl. Mais ce qu'Abdoul a fait, il s'en foutait complètement. Et c'est qu'il lui a marché dessus. C'est le cas, par exemple, de BSD. BSD, c'est pas, sa signature à l'UFC ne me fait ni chaud ni froid, en fait. C'est que, bon, moi, c'est du management, c'est pas un problème, ça. Là, ce qu'il a fait, il y a deux jours, me bluffe. Là, tu ne peux pas ignorer que Benoît Saint-Denis, il faut compter sur lui. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire que son gars est venu sur un mauvais jour. Tu peux vouloir dire ce que tu veux. Quand tu montes face à un mec qui a 50 places au-dessus de toi et que tu lui manques de respect et que tu le chiffonnes avec des middles, et que tu l'amènes et que tu prends son dos et tu le soumets au premier rang, fort, il est bon. Tu peux dire ce que tu veux, il est bon. Ça ne veut pas dire que le chemin est tout tracé, parce qu'il est encore à la 40e place, il y a 40 places à gravir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je te dis, moi, c'est à ce moment-là que ça bascule. Quand je regarde son combat, je me dis, je suis content pour lui. Je suis vraiment content pour sa team. Et c'est sincère ce que je dis. Je n'en veux, je n'en vis pas du tout. C'est que je suis, c'est pas une manière de faire le mec qui a l'ego. Moi, je n'en veux pas. C'est que je suis très, très bien avec les miens. Je suis, moi, on le sait déjà, j'ai besoin d'émotion. J'ai besoin de feeling. J'ai besoin d'aimer les gens avec lesquels je travaille. J'ai besoin de sentir quelque chose, de vibrer. Les gars avec lesquels je suis, ils me font tellement vibrer, frère. Si c'est que il y a des, tu me mets des très bons budgets avec des mecs où le feeling ne passe pas et tu me mets zéro budget, j'accompagne ceux qui avec lesquels le feeling passe. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais c'est important de dire Benoît Saint-Denis a été très bon et donc sa team a été très bonne. Il faut le dire, sur ce dernier combat, ils ont été exceptionnels. Je ne dis pas que la performance et ce qu'ils ont fait au niveau où ils sont, le rang qu'ils ont fait exceptionnel. Je dis simplement que là, sur ce combat, avec les odds, comment c'était donné, avec ce que moi je connaissais de Bonfim, c'était très beau. C'était très bon, un très bon combat et c'était très beau et c'est bien pour. Ça revient à mon combat que j'ai tous les jours. C'est de dire, ne faites pas une fixation où vous voulez faire mal à quelqu'un de chez vous et vous voulez tellement lui faire mal que vous oubliez que vous vous faites mal à vous-même. C'est ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas. Je vais prendre un exemple d'un ami. Aldric Cassata est un ami. Je le kiffe. Imaginons, je n'aime pas Aldric Cassata. Aldric Cassata n'a pas de chance. Imaginons dans un monde parallèle, Manon a une mauvaise performance. Et pour pouvoir me sentir bien, je vais dire, Manon, il faut qu'elle bouge. On ne peut rien apprendre à Nice, on n'apprend rien en France. Il faut qu'elle bouge. Si elle va aux États-Unis, elle va s'en sortir. Si elle fait comme un tel, elle va s'en sortir. On ne fait pas avancer le SMIC, on se fait mal tout seul. Parce que si Manon bouge, on aura déjà une perte, une hémorragie d'un cerveau, pour le coup, d'un muscle, d'un corps, d'une athlète, on aura une effusion, une hémorragie de plusieurs athlètes qui s'en vont comme ça. On a vu des gens se perdre, les gens parlent des États-Unis et ils vont te donner l'exemple de quelques réussites en te disant, Francis est parti, bah, regarde ce qu'il est devenu. Non. Joanna Jezeski, elle est partie de la Pologne. Elle a sombré. Elle n'a pas arrêté de sombrer jusqu'à sortir de l'UFC. Ici en France seulement, Karl Amoussou est parti, il a sombré. Johnny Fraché, il est parti aux États-Unis, il a sombré. Des exemples comme ça, je peux t'en. Tom Duquesneau était extrêmement brillant, il a sombré. Et on a toujours les ricains qui nous endorment et qui nous font croire que leur team, ce sont les meilleurs. La guerre n'est pas intranationale, la guerre, entre guillemets, la guerre de la compétition doit être avec l'international. Je préfère dire la vérité et dire, je pense que la team de Benoît, Monsieur Voirin, est un bon coach par rapport à Benoît, garder Benoît en France, que de voir Benoît sortir, aller aux États-Unis, juste parce que ça m'arrange et ça arrange un conflit que j'ai eu avec son coach. Je préfère qu'on reconnaisse que on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour performer. On n'a pas besoin d'être au Brésil, aux États-Unis, pour battre un mec qui est classé 50 places au-dessus de soi. On pète en France, s'entraîner en France avec un coach de sol français, avec un prof de MMA français et battre les étrangers. On pète Lyons Edouard et battre un Américain qui s'appelle Ousmane Camaro et qui fait la lutte aux États-Unis. On peut le battre alors qu'on vient de l'Europe. On peut être Manon Fiorot et battre des filles qui viennent des États-Unis. Parce que quand l'adversaire de Manon Fiorot, Rose Namajunas, perd sa ceinture, on continue à respecter le coach de Rose Namajunas. On continue à dire il est très bon parce que c'est une guerre de classement de club. Mondialement, on nous vend un business où on nous dit les États-Unis gagnent tout. Vous, en France, vous êtes un petit club. Et je dis, les gars, ne laissez pas cette narration se faire. La réalité, c'est que Chris Curtis, on veut réduire aujourd'hui à pas lutteur. Chris Curtis est du même club que Escrime Couture, Eric Nixit. Et Chris Curtis s'est fait malmener en lutte par Nassoudine Imavov. La réalité, c'est que quand Francis était encore ici, il a battu Anthony Hamilton par Kimura, alors que Anthony Hamilton était un Américain qui s'entraînait aux États-Unis. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Français comme William Gomis qui a battu Francis
Marshall
en MMA aux États-Unis à Las Vegas chez lui alors qu'il venait d'ici. Il faut qu'on commence à exporter notre MMA. Il faut que dorénavant, quand il y a quand on a un combat à préparer, qu'on soit capable de faire venir des gens de l'étranger pour nous aider au lieu qu'on bouge tout le temps. C'est à ça qu'on joue. J'adore l'invitation de Habib. Viens au Daghestan. La réalité, c'est que Habib, il fait un très bon boulot de patriote. En tant que Daghestanais, il a compris que Il a terminé sa carrière. C'est le moment de commencer à vendre le tourisme du Daghestan. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un combattant mondial connu qui soit allé s'entraîner au Daghestan. Même Khabib lui-même s'entraîne du côté des États-Unis pour préparer ses combats. Mais politiquement, il dit, viens au Daghestan, tu vas t'entraîner, alors qu'il n'y a pas un seul poids lourd qu'on connaisse qui est daghestanais, qui est percé. On sait que les grands lutteurs poids lourds dans le Caucase viennent de l'Ossétie. Les petites catégories viennent du Daghestan et de la Tchétchénie. Et c'est comme ça que la lutte se développe. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de croire en nous-mêmes et de faire monter notre sauce. Pour que... Attends, je vais t'expliquer. Il faut que tu comprennes, c'est que qu'ils le veulent ou pas, quand Benoît Saint-Denis fait une performance comme celle qu'il a fait la semaine dernière, il me met bien. Qu'ils le veulent ou pas, quand nous, on va aux États-Unis, on est plus respecté parce qu'on sait qu'il y a un gars qui vient de l'industrie du MMA français qui a gagné violemment aux États-Unis. Quand Nassourdin bat le top 20 mondial, quand il bat un mec comme Shahbazyan, on gagne en respect. Et donc, il faut qu'on arrête cette volonté de vouloir faire mal à un. Et de... ça me rappelle un peu le film d'horreur Saw, où en gros, tu as le choix. On te met dans une chambre, tu te réveilles et tu es face à quelqu'un qui t'a fait du mal. On te dit, bah, tu as l'occasion de... Là, tu peux lui faire très mal. Il y a un bouton là, il est rouge, tu appuies dessus, il aura très mal, tu vas le zigouiller. Par contre, tu ne sais pas c'est quoi la contrepartie. Et bah, tu appuies sur le bouton et il y a une conséquence, c'est qu'il y a ton enfant qui a mal de l'autre côté. Et tu dis, oh, bah, c'est... faut pas juste vouloir faire mal au point de se faire mal à nous-mêmes. On a un tissu qui est l'industrie du MMA français. Si on veut briller, on n'a pas le choix. Qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas, on est condamné à se soutenir et envoyer un message positif pour qu'on ait plus de respect, plus de compétition, plus d'occasion de briller. Parce que là, rien que dans l'Europe, on a déjà en guerre avec l'Angleterre qui lutte à avoir le meilleur public, plus d'événements que nous. Nous, on a l'occasion de le faire, faut pas lâcher.
Et puis, réponse le 2 septembre prochain pour voir qui est le meilleur public européen avec l'UFC Paris Fernand. D'ici là, bah, je pense qu'on a répondu à la question sur bah, comment ça se passe toi avec les petites pépites et quand tu gères tout ça. Les gens ont bien vu et c'est vrai, je pense, à mon avis, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait aussi qu'il y ait plus de Français qui viennent un peu de partout, les gens aussi vont... Voilà. Pardon, je voulais ajouter, je pense que ce qui va faire du bien aussi au MMA français, c'est que ça sorte de Paris aussi. Parce que comme tout, à partir du moment où il y a d'autres villes que Paris, ça fait aussi du bien de se dire, bah, comme tu as dit avec Aldric Cassata, il y a Nice, tu peux aussi réussir à Nice, tu peux réussir aussi dans d'autres contrées quand tu auras d'autres athlètes.
Le Nord, Roubaix.
Ouais.
Est-ce que tu t'imagines que dans le staff de Chimaev, il y a un petit qui vient du nord de la France, qui est entraîné par Walid, qui va chez Chimaev et qui va l'aider. Enfin, tu vois, on exporte le MMA français. Et il faut arrêter de le réduire. Quand on dit à nous-mêmes, à nos athlètes, à nous-mêmes, non, bah, tu ne seras jamais champion. Mais non, tu es une grosse mère, tu ne seras jamais champion. Mais non, tu seras. C'est dommage. Parce qu'on renforce les idées, on laisse le terrain aux étrangers qui se positionnent comme étant les légitimes champions. Il y a encore quelques années, on n'avait même pas l'occasion de rêver d'avoir quelqu'un qui puisse s'approcher du titre. Aujourd'hui, on a des gens qui s'approchent violemment du titre, qui combattent pour le titre, qui chopent même le titre intérimaire. Ah, c'est bien. C'est pas tout, mais c'est bien. C'est bien pour tout le monde.
Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord. Fernand, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On parlera encore de gros, gros sujets de fond intemporels, en plus des petites actualités du moment, parce qu'il se passe toujours des choses dans le MMA. Il y aura les résultats de l'UFC 290 et bien plus encore. Merci beaucoup. We'll be right back.
I'm fucking coming for you!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.